Frères et sœurs bien-aimés, nous voici réunis en cette église pour honorer Saint Sylvestre. Saint Sylvestre est élu au souverain pontificat du temps de l'empereur Constantin. Constantin est le premier empereur romain à avoir embrasé la foi chrétienne qu'il tenait notamment par héritage, pourrions-nous dire, de sa mère, Sainte Hélène. Ce fut un empereur infatigable pour asseoir les premières fondations d'une église qui, après avoir été persécutée, va enfin connaître ce que l'on appellera la paix constantinienne. Oui, enfin, on peut vivre sa foi dans l'Empire sans craindre pour sa vie. Le pape que nous honorons, Saint Sylvestre, 33e dans la succession de l'apôtre Pierre, nous en sommes à 266 aujourd'hui, nous sommes au commencement de la vie de l'Église, aux environs du 4e siècle, eh bien, va durer 22 ans. Alors pour nous, 22 ans, ce ne sont pas des années trop longues, mais après que chaque pape soit martyrisé et ne dure longtemps, voilà enfin une ère de stabilité. L'empereur Constantin, devenant le premier empereur chrétien, eh bien, va non seulement défendre la foi chrétienne, va également se rendre en Terre Sainte, y envoyant sa mère Sainte Hélène, puisque les Romains avaient enfoui toute la ville sainte sous les décombres pour que de Jérusalem il ne reste rien, pas même le souvenir. C'était sans compter à la fois la tradition de nos frères aînés dans la foi qui continue et à vénérer le mont Sion où Dieu avait fait bâtir ce temple, mais c'était également sans compter sur la première communauté chrétienne qui continue à aller au-dessus des lieux où le Seigneur a offert sa vie, où le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, et c'est l'empereur Constantin qui fera bâtir, eh bien, ce que l'on appelle aujourd'hui le Saint-Sépulcre, la grande basilique qui accueille et le mont Golgotha et non loin de là, la Sainte Tombe. On parle beaucoup de l'empereur Constantin et il est vrai que le pape Saint-Sylvestre, élevé au souverain pontificat, a un peu pâti d'un empereur devenu chrétien qui a pris un peu, beaucoup même, de place. L'empereur lui-même décidera de la convocation du concile d'Arles. Le pape Sylvestre enverra quelques émissaires, mais puisqu'il est de son droit de convoquer le concile, ne s'y rendra pas. De même, l'empereur Constantin convoquera le grand concile de Nicée qui précise la divinité de notre Seigneur Jésus le Christ. Là aussi, le pape Sylvestre, plein de paix et magnanime, enverra des représentants, des prêtres, qui signeront avant même tous les évêques, mais ne s'y rendra pas personnellement. Pourquoi ? Parce que nous arrivons au commencement de l'Église avec ce qu'on appelle le césaropapisme, où l'empereur, se prend aussi pour le pape. On voudrait, dans une lecture après la Révolution, très rapide, anticléricale, nous faire croire que le pape voulait prendre tous les pouvoirs, mais nous voyons bien avec l'époque de Constantin que c'était plutôt l'inverse et que l'empereur, tel Napoléon, bien des siècles plus tard, essaiera lui aussi de faire ce putsch et de prendre la place de celui que le bon Dieu a choisi pour conduire l'Église. Le pape Saint-Sylvestre a laissé un fort témoignage à l'Église entière, tout comme à la communauté de Rome qui le connaissait et le fréquentait plus régulièrement, de telle sorte que nous avons trouvé dans l'archéologie, auprès de sa tombe, eh bien, des premiers graffitis quasiment de son vivant, parlant déjà de Saint-Sylvestre et demandant au bon Dieu de les exaucer par son intercession. Un pape, finalement, dont on ne connaît pas grand fait de sa vie, mais quelques siècles plus tard, on ne manquera pas d'ajouter à la légende du pape Sylvestre de nombreux et de nombreux épisodes pour justement contrebalancer le fait que l'empereur Constantin avait alors pris beaucoup de place. Il fallait, sans doute, dans le dessein de Dieu, eh bien que cela se passe ainsi. Alors que nous contemplons ce rétable de notre église de vieille, nous voyons le pontife, glorieusement régnant, tenant les saints évangiles dans sa main. Puisque l'époque est venue à la paix, voilà qu'on ne risquait plus de perdre sa vie, puisqu'on demandait aux chrétiens d'abjurer l'évangile et de retomber dans le paganisme. Sylvestre tient fermement les saintes écritures et de l'autre côté, sur sa tête comme dans sa main, sur sa tête nous voyons la tiare manifestée avec ses trois couronnes, la couronne à la fois du pouvoir bien sûr temporel sur les états du Saint-Siège, c'est comme le disait le pape Paul VI, le peu de chair qu'il faut à un corps pour supporter une âme, et bien voilà que le pape tient cette croix comme cette triple couronne pour manifester la primauté de l'apôtre Pierre, primauté non seulement sur ses propres états, primauté spirituelle sur tous les princes chrétiens et l'ensemble des fidèles. Et la troisième couronne nous dit bien qu'il est le successeur de l'apôtre Pierre. C'est ainsi que nous voyons notre pape glorieusement entouré par ceux dont il est le 33e successeur, successeur de l'apôtre Pierre, tenant les clés, puisque le Seigneur lui a affirmé « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, je te donne les clés du royaume des cieux, ce que tu liras » du verbe « lier ». Sur la terre sera lié au ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. De même, et nous l'oublions peut-être un peu trop, le pape est également le successeur de l'apôtre saint Paul lui-même, l'apôtre des nations. Ces deux basiliques et ces deux apôtres de notre Église ont offert le sacrifice de leur vie dans la ville de Rome. Un sort qui ne sera pas réservé, ainsi en a-t-il plus au bon Dieu, au pape Sylvestre. Au-dessus de notre rétable, bien sûr, Dieu le Père, tenant fermement ce globe qui représente tout le monde et l'univers créé, sur lequel eh bien, est représentée la croix qui nous permet de cette terre d'accéder à la gloire du ciel. C'est ce que la cour angélique manifeste autour de Dieu le Père, revenant ainsi dans la gloire. Oui, nous avons de chaque côté deux anges qui, avec leur index, nous indiquent qu'il y a le ciel, mais ne sont pas soutenus par des bâtons, tiennent les trompettes du jugement dernier en position comme à l'arrêt, puisque l'heure n'est pas encore venue de sonner le jugement dernier. Mais les anges nous précisent qu'il y a bien Dieu au-dessus de nous, qu'il y a également le pape qui est là pour nous conduire fermement et sûrement en nous confortant dans la foi de cette terre jusqu'à la gloire du ciel et enfin les deux anges qui manifestent les palmes, parce que lorsque nous serons introduits dans la cité sainte, ce sera, comme l'a vu saint Jean dans l'Apocalypse, les palmes à la main, mais en signe de victoire. Qu'avons-nous vaincu ? Nous avons vaincu le péché, nous avons vaincu le mal, ou plutôt, le bon Dieu a vaincu en nous le péché, le bon Dieu a vaincu en nous la mort, nous sommes alors enfants de la résurrection et nous irons palmes à la main, voit l'apôtre, laver nos vêtements dans le sang de l'agneau. Et cet agneau demeure présent au tabernacle. C'est le Fils de Dieu dont nous allons recevoir dans quelques instants le corps et le sang, la présence réelle du bon Dieu pour venir nous assister ici-bas. Nous assister dans la maladie ou quand ça ne va pas trop bien, nous assister dans les moments d'épreuve, assister tous les membres de nos familles, enfants, petits-enfants, parents, mais également veiller sur tous nos fidèles défunts pour qu'au plus vite, ils parviennent aux sources vives du salut. Nous rendons grâce pour ce ministère que le pape Saint-Sylvestre a exercé sur l'Église, pasteur fidèle et dévoué à son troupeau. Et alors que nous avons appris le décès du pape Benoît, nous rendons grâce aussi pour la paix qu'il a pu apporter à notre Église. Nous le rendons grâce pour la richesse féconde de son enseignement doctrinal. Nous pensons particulièrement à ses trois encycliques sur la foi, l'espérance et la charité, sur ce si beau voyage qu'il a fait en notre terre de France, allant à la fois rencontrer notre chef de l'État, le président Sarkozy, allant inaugurer les Bernardins, étant reçu au Collège de France et de Paris, venu visiter, bien sûr, en notre année jubilaire de l'an 2008, le sanctuaire de Lourdes. Il a mis ses pas auprès des millions de pèlerins que nous avons accueillis cette année-là, venir se recueillir à la grotte et donner là deux homélies admirables sur le sourire de la bienheureuse Vierge Marie et sur Sainte Bernadette, pour qui il avait une grande dévotion. Son effacement, son humilité, la douceur de son sourire avaient, dans notre sainte Bigourdane, quelques racines. Lui qui est né et qui a été élu au souverain pontificat au jour où sainte Bernadette a été rappelée à Dieu un 16 avril. Lui-même ayant démissionné un 11 février à la fête de Notre-Dame de Lourdes, nous voyons combien dans le cœur du pape Benoît, le sanctuaire de Lourdes, qu'il a appris à connaître dans sa Bavière natale, eh bien avait une place particulière. Et nous, peuple de Bigorre, nous prions et sainte Bernadette et Notre-Dame de Lourdes pour son repos, bien que nous ne sommes pas inquiets sur l'accueil que le bon Dieu réservera au pape bien-aimé Benoît XVI. Puisse-t-il, du haut du ciel, continuer à prier, lui qui était le pape moine, aimait dire le pape François, à prier pour la conversion de notre Église et que nous parvenions fermement aux sources vives du salut. Ainsi soit-il.